Bonjour, vous êtes sur Radio FM+, 91 FM Montpellier. Vous écoutez Le Fil du Fer dans le cadre du partenariat entre le Hangar Théâtre de l'ENSAD, Radio FM+, pardon, et Texte en cours. Le Fil du Fer enregistre 3 émissions au Hangar Théâtre avec plusieurs autrices et auteurs faisant partie de la 10e édition du festival Texte en cours. Texte en cours fête cette année 2022 10 ans d'écriture contemporaine pour le théâtre et la scène. La particularité de Texte en cours, faire entendre des textes encore en cours d'écriture. Aujourd'hui, nous entendrons Le Fil du Fer d'Émilie Coustet, Charles Segar Noirclair, Hugo Titem de Lavaux. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Salut.
Qu'est-ce qui pourrait tuer le théâtre à votre avis ? Hugo ?
Mince. Qu'est-ce qui pourrait tuer le théâtre ?
On avait dit pas de questions pièges.
Ouais. Ouais. On commence avec une question piège. Je pense pas grand-chose en vrai. Si je peux répondre de manière optimiste, je crois que le théâtre a cette force de résister un peu à toutes les catastrophes et même de naître des catastrophes sans doute. Après, qu'est-ce qui peut tuer le théâtre ? La fin du monde.
Un prolongement, Émilie ?
Ah non, moi j'ai rien à ajouter, la fin du monde ça me paraît parfait comme raison de tuer le théâtre.
Est-ce que je me tourne vers vous, Charles ?
Non, je rejoins Hugo là-dessus. Il n'y a que la fin du monde, apocalyptique.
Et théâtrale. Donc alors, Émilie, Charles, Hugo, quel âge avez-vous et que faites-vous dans votre vie professionnelle ? Charles, puis Émilie, puis Hugo ?
Je suis comédien, musicien et metteur en scène.
Et votre âge ?
Et j'ai 28 ans.
Oui. 28 ans.
Moi, j'ai 33 ans, je suis autrice et dramaturge, encore un peu interprète de temps à autre, et je fais de la créa sonore.
Moi, j'ai 25 ans, je suis aussi comédien et donc auteur, mais je suis surtout encore étudiant. Je suis en dernière année à l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon.
Pourquoi avez-vous envoyé, pour tenter la sélection 2022, un de vos textes encore en cours d'écriture au festival Texte en cours, Émilie ?
Eh ben, parce que c'est une super étape de travail sur des textes. En l'occurrence, moi, un texte que j'ai du mal à finir, dont j'ai la sensation qu'il pourrait s'écrire encore et encore et encore, et sur lequel j'ai besoin de placer des étapes. Et celle-ci, elle était vraiment aidante. Elle m'a obligée à définir une forme qu'il fallait envoyer, déjà, pour commencer. Et elle m'a remise au travail ensuite, une fois que j'ai su que j'étais sélectionnée, parce que ça redonne des perspectives très concrètes. Ça va être lu par des vrais gens en chair et en os que je vais pouvoir venir entendre et que cette étape-là, elle est extrêmement précieuse pour ensuite remettre l'ouvrage en route et peut-être, j'espère, clore ce texte bientôt maintenant.
Yo.
Non, mais je rejoins Émilie, c'est vrai que c'est des super étapes de travail. Et puis, il n'y a pas tant d'appels à texte ou de festivals, justement, sur des textes en cours d'écriture. C'est souvent quand même des textes qui nous demandent d'être finis. Alors, qu'est-ce que c'est un texte de théâtre fini ? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, et du coup, moi, c'est aussi. Je suis à l'école, donc j'ai aussi beaucoup de textes en cours. Je suis en recherche, etc. Du coup, ce festival, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, super, je vais pouvoir envoyer des choses aussi qu'on va accepter, non finies et en recherche, etc.
Charles ?
Je rejoins Hugo et Émilie là-dessus. Ce côté un petit peu texte sauvage, pas encore tout à fait saisi. Et donc de pouvoir l'éprouver aussi dans le réel, quoi. Et donc, peut-être nous aider même à finir ces textes, s'ils le veulent.
Je continue avec vous, Charles. Donc, votre pièce sélectionnée s'appelle « Guerre et paix » du paresseux. Pourriez-vous présenter votre projet et ainsi de suite avec Émilie et avec Hugo ?
Alors, c'est une pièce qui est un peu née par hasard, enfin. Je travaillais sur un autre projet au départ, qui faisait suite à un séjour à La Réunion, une pièce aussi pour enfants, c'est une pièce jeunesse, comme Guerre et paix. Sauf que là, c'est un enfant qui se transformait en, en corail dans l'histoire. Et en fait, pendant que je méditais un peu là-dessus, j'ai regardé des documentaires. C'est un peu mon dada, j'aime beaucoup faire ça. Et je suis passé d'un documentaire sur l'Amazonie et les paresseux, en l'occurrence, à aussi donc un reportage sur la guerre en Ukraine. Et la rencontre des deux a donné lieu à un questionnement vis-à-vis de l'enfant quand il est soumis à... comme moi, j'ai pu l'être d'ailleurs depuis que je suis enfant, en fait, au documentaire Arte sur la beauté du monde et à côté la violence humaine et comment en fait l'enfant s'empare de ça et puis peut-être invente des mondes et pourquoi pas, et c'est un peu le sujet finalement de ma pièce, déjoue le réel.
Émilie, votre pièce s'appelle Lady de la mendiante.
Tout à fait. C'est marrant, c'est aussi un texte qui est né d'un premier geste d'écriture. Lady de la mendiante, il répond à une question qui est récurrente, si ce n'est systématique dans mon travail, qui est celle des deuils impossibles. Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse un deuil qu'on ne peut pas finir et qu'on ne pourra jamais finir? Parce qu'il y a cette espèce d'injonction, hein, le deuil c'est un an, et puis au bout d'un an c'est fini, il faut repartir à la vie et redevenir productif ou je sais pas trop quoi. Et en fait je crois que ça marche pas à tous les coups ça. Et cette question, elle se décline un peu différemment à chaque texte. Et donc j'écrivais un texte sur un deuil, voilà, physiquement pas possible, je peux pas laisser cette personne mourir, donc je vais la ramener à la vie. Et dans cette autre pièce, donc, qui s'appelle Samhain, en cours de l'écriture, il y avait ce personnage qui revenait tout le temps et qui m'échappait et qui avait une espèce de litanie. Et elle s'appelait la mendiante et elle venait traverser en permanence le texte et imposer des discours quasi prophétiques qui ressemblaient à des discours familiaux très déterminants, très culpabilisants, très douloureux qu'on peut entendre de manière inconsciente. Et puis, au bout d'un moment, elle rentrait plus dans cette pièce. Elle était tellement insistante qu'il fallait lui donner un espace de parole à elle. Et donc, j'ai commencé à écrire Lady de la mendiante parce qu'elle avait besoin de sa pièce. Et c'est une exploration qui est vraiment à la lisière entre la poésie et le théâtre de qu'est-ce que c'est qu'un discours familial, en particulier sur l'absence et la folie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on hérite d'un deuil à travers ce discours-là et qui nous détermine dans notre rapport aux autres.
Hugo, pour vous, c'est consoler les dragons.
Oui, Charles, tu as parlé de se créer des mondes pour déjouer le réel. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment au centre de mon travail, vraiment. Et je pense que moi, l'écriture me permet de déjouer mon propre réel. Mais en tout cas, c'est vraiment ça que je cherche aussi, je crois. Consoler les dragons, c'est l'histoire de Maël, qui est un jeune adulte et qui retourne vivre chez sa mère et qui s'enferme dans sa chambre. Et il ne va pas en sortir, même pas pour manger, même pas pour pisser. Et donc c'est sa mère qui va le forcer à manger en lui glissant les assiettes à travers la porte. Et ça part d'une envie de raconter cette chose-là, cette envie de disparaître parfois, parce que je crois au centre de mon travail, il y a aussi la question de trouver sa place, qui est une question qui peut être bateau, mais qui moi, en fait, je trouve essentielle, en tout cas moi, est essentielle pour moi. C'est quoi trouver sa place dans le monde? Puis en plus là aujourd'hui, voilà, il y a la fin du monde, on en parlait au début, non mais voilà, l'écologie, le racisme, enfin bon, un enfer partout à tout point de vue. Donc je trouve que ça peut être difficile de savoir quoi faire de tout ça. Et Maël, le personnage de ma pièce, c'est ça aussi, c'est pour des raisons aussi différentes. Puis il s'est passé des choses violentes et je crois que lui, en plus il y a la question d'une maladie qui apparaît, mais il va s'enfermer pour disparaître du monde, se retirer du monde en tout cas. Et dans sa chambre, il va cohabiter avec un dragon et puis après avec une guerrière. Et voilà, mais c'était aussi ces questions-là. Comment trouver sa place? Comment trouver du courage pour finalement affronter le monde? Et puis comment on déjoue le réel pour pouvoir mieux l'affronter?
Pour nos auditrices et auditeurs qui seraient tentés par la même voie professionnelle que vous, que se passait-il dans votre vie pour que vous en arriviez là, c'est-à-dire au théâtre et à l'écriture?
Waouh, quelle question. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ma vie? L'écriture, ça fait quand même depuis très très longtemps que j'écris. Bon, j'ai pas écrit du théâtre tout de suite, c'était plutôt de la poésie, voilà, collégien, adolescent. Donc, une manière aussi de de sortir tout ce qu'il y avait sur le cœur, forcément. Mais à la base, je voulais faire de la science, donc bon, c'était vraiment une occupation, on va dire, extérieure. Puis ensuite, de fil en aiguille, bah voilà, le théâtre. Et donc, je me suis intéressé à l'écriture théâtrale, tout en poursuivant des études de comédien, avant tout, et en jouant. Et voilà, ça s'est développé au fur et à mesure, cet attrait pour l'écriture.
Au risque de lâcher un énorme poncif, j'ai l'impression que c'est pas tant le parcours qui amène l'écriture que l'écriture qui détermine le parcours. Enfin, j'ai l'impression qu'on répond tous un peu oh, « j'ai écrit très jeune » et que c'est quelque chose de récurrent. Quand on devient auteur, il y a toujours un rapport à l'écriture, même en germe, même à minima. Moi, à la base, j'adorais le théâtre, mais c'était pas parti pour être mon métier. J'ai fait des lettres, de l'allemand, j'étais orthophoniste, enfin voilà, tout un tas de trucs. Mais qui avait toujours un rapport avec la langue et avec la littérature, c'était toujours un peu là. Et puis je me suis un peu réveillée un matin en me disant « Non, mais j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, c'est pas possible, là, je peux pas continuer dans cette voie. » Je suis devenue comédienne, mais j'écrivais du théâtre même avant, en fait, sans forcément le dire, ou même des fois sans le savoir peut-être, mais... Ce passage, en tout cas par le plateau et par l'interprétation, a vraiment cristallisé l'écriture autour du théâtre et je lâche plus ça. Et voilà, enfin, c'est ma forme dans laquelle je suis bien et dans laquelle j'ai envie de poursuivre.
Hugo ?
Bah non, mais moi je vais un peu redire ce que j'ai dit, mais je crois que voilà, ça, moi le théâtre m'a permis de trouver ma place et de déjouer le réel et de mieux le comprendre. D'abord par le plateau comme acteur. Voilà, et puis après, l'écriture, effectivement, a toujours été là. Puis je crois qu'elle est arrivée aussi parce que j'avais des questions que je ne trouvais pas de réponse et qu'il y avait des choses dont j'avais besoin de parler, d'entendre parler, et je ne trouvais pas. Et moi, ça a été aussi la question du post-colonialisme, en tout cas, le rapport de la France à l'Algérie, en fait, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai des grands-parents qui sont kabyles, donc... C'est un peuple berbère en Algérie, et donc évidemment, il y a toute la question de la guerre d'Algérie, il y a toute la question de trouver sa place, voilà, tout ça qui était là, et je trouvais peu de choses sur ce sujet-là, et je crois que j'ai eu besoin d'enquêter, en fait. Je crois que l'écriture aussi, moi, me permet d'enquêter sur le monde, sans émettre de jugement, mais en tout cas en essayant de creuser des questions pour peut-être tenter de trouver des réponses.
Oui, donc après avoir fait cette description de votre parcours, est-ce que les uns et les autres, en vous écoutant, vous vous reconnaissez dans ce qui est dit par l'autre ?
Pour ma part, oui, bah, par rapport à ce que tu viens de dire justement, Hugo, le fait de porter, de mener une enquête sur le monde et d'essayer de, par rapport au jugement aussi sur lui, d'être finalement plus humain. C'est surtout, d'ailleurs aujourd'hui, je trouve que les choses sont de plus en plus binaires, de plus en plus polarisées. Je trouve que c'est vachement intéressant le travail qu'on peut faire en tant qu'écrivain, qui est en fait de montrer que la vie est bien plus complexe, et bien plus belle aussi parfois, tout en parlant bien sûr de choses parfois tragiques, terribles, mais de pouvoir apporter en fait quelque chose de moins manichéen aussi aux rapports humains. Voilà.
Il y a un rapport au jeu aussi. On est tous les trois passés par le jeu avant ou en parallèle de l'écriture, et vous avez tous les deux parlé de rejouer, déjouer le réel. Il y a cette chose-là en commun. Alors que... Enfin, pour le coup, moi, j'entends plutôt des choses très diverses entre nous trois. Entre, tu vois, la science, la place dans le monde et les deuils. Enfin, il y a... Tu trouves toujours des façons que ça se rejoigne. Et bien sûr qu'on s'interroge tous les trois sur le monde, et heureusement. mais en partant, j'ai l'impression de points de vue, pour reprendre le terme d'Agathe, très différents. Et c'est chouette. c'est une bonne nouvelle.
Pour la pause musicale, nous écoutons Xani de Billie Eilish. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table. And that's about the only thing they share. I'm in the secondhand smoke, still.
just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. On the sick night it drives him. Only one who's not stunned. Don't give me a zanny now or ever. Waking up at sundown, they're late to every party. Nobody's ever sorry. Though inebriated enough to dance. Morning as they come down, their pretty heads are hurting. They're awfully bad at learning. Make the same mistakes, blame circumstance. I'm a secondhand smoke, still just drinking canned coke. I don't need a zanny to feel better. On the sick night it drives them.
Vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+, Hugo Titem de Lavaux, Charles Segard, Noir Clair et Émilie Coustet sont au micro du Fil du Fer dans le cadre du festival Texte en cours. Je me permets de vous laisser parler entre vous de ce sujet. Les conditions et situations des auteurs et autrices pour le théâtre en 2022 en France via peut-être votre propre expérience. Émilie ?
Allez, c'est parti. Aux surprises, je ne vis pas de l'écriture, hein, on s'en serait douté. J'ai une compagnie, moi, Tourangelle, qui s'appelle Posso, que j'ai montée avec une comparse il y a maintenant 6 ans. Et donc, c'est beaucoup de travail bénévole, de travail invisible. Et là, c'est la 6e année donc, d'existence de cette compagnie et je vais accéder à l'intermittence seulement maintenant. Parce que je suis aussi comédienne, parce que je lis mes textes, parce que voilà, c'est ça qui me permet en fait au quotidien de manger en fait.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est l'intermittence pour les auditeurs et auditrices ?
Alors l'intermittence du spectacle, c'est un statut particulier, c'est des annexes de l'assurance chômage qui nous permettent, si on parvient à cumuler 507 heures de travail rémunéré sur 12 mois, d'accéder ensuite à un régime chômage particulier qui nous sécurise et qui nous permet, j'allais dire de pas courir après les cachets, si bien sûr que si, de courir de plus en plus et tout le temps après les cachets, mais en tout cas de savoir à peu près ce sur quoi on peut tabler dans les mois qui suivent. Voilà, pour pouvoir prévoir de la création, de la production, de l'écriture du jeu sans être en panique du jour au lendemain tout le temps. Ou sans avoir en permanence un job alimentaire comme c'est le cas des comédiens dans plein d'autres pays. Voilà.
Hugo, une réponse peut-être ?
Franchement. Peut-être pas grand chose à dire. Moi, je suis quand même encore étudiant.
Alors, étudiant, qu'est-ce que vous faites à l'ENSAT ?
L'ENSAT, c'est donc l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ce que je disais tout à l'heure, que c'est une grosse école nationale. En France, il y en a, je sais
une dizaine,
plus trop combien, ouais, une dizaine. Une voilà. Dizaine. C'est des écoles sur concours. Après, ça dure 3 ans. On sort avec un diplôme d'État. Voilà, et à l'ENSAT, on sort aussi avec un master de recherche-création. L'ENSAT, c'est une des seules écoles en France où il y a presque tous les corps de métier du théâtre. Ça va vraiment donc du jeu à l'écriture, l'administration, la scénographie, la technique aussi. Enfin, voilà, c'est la force de l'école. Et donc, moi, je suis en écriture depuis là, 2 ans, c'est ma dernière année. Et on n'apprend absolument pas à écrire, mais en tout cas, on est vraiment accompagnés sur nos projets. Et puis, on rencontre des auteurs, des autrices, des jeunes artistes. Et c'est vraiment un accompagnement. Voilà. Et donc, c'est vraiment une école que je conseille à des gens qui ont envie d'écrire, envie d'être accompagnés et d'avoir un cadre de recherche. Encore une fois, on n'a pas besoin de faire cette école pour écrire, mais... ça peut être vraiment chouette comme cadre. Voilà. Donc sur les conditions du métier, c'est...
Est-ce qu'on y pense ?
On y pense, oui, puis on nous en parle. Enfin, tous les intervenants qu'on a finissent toujours par nous en parler. La plupart nous disent quand même qu'ils essaient d'être intermittents. Voilà, et intermittentes. Mais comme auteur et autrice, c'est possible de ne pas être intermittent et intermittente aussi. Hein, mais c'est plus compliqué. Enfin, c'est différent en tout cas. Mais, alors oui, on y pense. Mais je pense qu'on découvre ça aussi avec le terrain.
Oui, moi je ne vis pas de l'écriture, c'est plutôt mon travail de comédien, moi qui me permet, et de musicien qui me permet de faire mes cachets, d'avoir mon intermittence. Après, c'est la première année où en fait je commence à gagner de l'argent avec mes textes. En fait, cette année 2022, donc un texte pour enfants aussi là qui s'est joué à Avignon et qui a plutôt bien marché avec une compagnie avignonnaise et puis là avec le festival Texte en cours. Donc j'ai bon espoir que des choses viendront par la suite. Après, pour ce qui est d'être auteur en France, je ne sais pas trop c'est quoi la situation des auteurs-autrices, mais je tiens quand même à saluer l'action que dispense la chartreuse CNES, qui est centrée autour des écritures théâtrales, ou en tout cas du spectacle. Et j'ai eu la chance de faire une petite résidence chez eux. Franchement, ils donnent vraiment tout. Donc, big up. voilà, petit message pour dire un petit big up.
Un texte pensé pour le théâtre, ça vient d'où et ça s'en va où quand le texte est achevé? Qu'est-ce qu'on dit à l'ENSET?
Nous, on nous parle de tous les appels à texte, de tous les appels à résidence aussi. Voilà, il y a la chartreuse, effectivement. Il y a Arsena. Enfin, il y a quand même un paquet de choses, en vrai, en France. Après, il y a aussi beaucoup d'offres. Hein, mais il y a quand même pas mal de demandes. Enfin, ça, moi, je trouve, en tout cas. Donc, nous, on nous conseille d'envoyer à ces festivals, à ces appels à texte. Puis après... ça s'en va où, ça c'est voilà. Enfin, en tout cas, ça c'est des leviers qui sont possibles en tout cas.
Ouais, ça s'en va en comité potentiellement, ça oui, s'en ouais. va en prod aussi selon les conditions de production et de travail dans lesquelles on évolue. Après, moi, il y a quelque chose que je fais de plus en plus et que j'aime beaucoup et qu'on met pas toujours en valeur, peut-être parce qu'on n'ose pas. Dans le cadre pro, c'est aussi partir sur les routes avec un pupitre pliable et le texte sur papier et aller lire dans des caves chez des gens, dans des cafés, sur des places de village, des endroits qui ne sont pas dédiés, qui ne sont pas reconnus par les institutions dans l'immense majorité des cas. Donc, bien sûr que ça rend les choses compliquées parce que c'est un travail qui n'est pas reconnu, qui n'est souvent pas rémunéré ou mal, etc. Mais qui est aussi une façon de faire vivre la littérature que moi, j'affectionne et que... Enfin, on parlait de nourriture tout à l'heure et qu'est-ce que c'est l'alimentaire de l'écriture, c'était Alexandre Santos qui disait ça et je trouve ça très juste et je trouve que c'est un endroit dont en tant qu'auteur souvent on parle pas parce qu'il est pas valorisé et difficilement valorisable alors qu'il est très fructueux et voilà, ça aussi ça existe et en fait je crois qu'on le fait un petit peu tous mais qu'on ne dit pas toujours.
Où va un texte une fois qu'il est fini, enfin peut-être qu'il est peut-être fini. Pour ma part, je l'envoie souvent à des amis où j'organise justement des lectures en petit comité avec des comédiens que j'apprécie ou dont je sais qu'ils vont pas ménager, et puis où on peut en tout cas essayer. Moi, j'ai un rapport quand même très de comédien en fait avec le texte. Il faut l'éprouver. Enfin, ça me suit. Je me méfie beaucoup de moi-même et de la caverne de mon crâne. C'est-à-dire que à force de travailler un texte, on a l'impression qu'on a des impressions, on a des sensations avec ce texte qu'on a l'habitude de voir, de relire, de travailler. Et je me méfie de ces impressions-là et j'ai besoin d'une première écoute ensuite pour pouvoir avancer. Et puis, a fortiori, oui, l'envoyer à des comités de lecture et envisager, pourquoi pas, une diffusion. Après, il y a les commandes aussi. J'ai eu une commande, c'est aussi vachement bien à ce niveau-là.
Et là, la question, c'est d'où ça vient un texte ? Donc l'idée d'un texte, l'envie d'écrire tel texte, de parler de ci, de parler de ça. Comment ça se passe dans votre cuisine mentale ?
Effectivement, il y a les commandes. Déjà, ça peut être aussi, voilà.
Oui, c'est des prétextes au texte.
Voilà, aussi, j'aime bien ton travail. J'aimerais que tu me fasses une pièce pour 3 personnes qui dure 50 minutes sur l'écologie dans le Jura. Voilà. Bon, bah là, on a un cadre et puis bon, bah on va trouver en nous comment. Voilà. Après, sinon, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Je crois que moi, il y a des choses qui se passent dans la vie qui me touchent, qui touchent ma sensibilité et qui crée des questionnements en moi et j'ai besoin de travailler pour tenter de comprendre ou en tout cas de faire quelque chose de cette sensibilité-là qui se crée, quoi. Donc moi, ça part aussi souvent de choses qui m'arrivent ou qui arrivent autour de moi et dont je ne sais pas quoi faire et ça va passer par l'écriture.
Prosaïquement, moi ça vient de la marche, beaucoup. C'est très souvent en marchant, en déambulant que... Il y a une espèce de première étincelle qui est souvent, enfin je sais pas, vous, et c'est une question que j'aime beaucoup poser, c'est souvent une phrase qui est dans une situation et qui semble m'apparaître, je sais pas d'où elle vient, des tréfonds de mon inconscient ou de la lumière sur une feuille ou d'une engueulade dans la rue, enfin des choses probablement que je vois sans les analyser. Et ouais, d'une phrase en est une deuxième, en est une troisième. Avec ce truc un peu magique de... Alors, je sais pas pourquoi, la marche et l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais les débuts de scène, c'est toujours, je suis en train de faire la vaisselle ou de prendre ma douche, mais vraiment, il y a un truc, il faut qu'il y ait de l'eau pas loin. Et je me souviens d'une pièce où je luttais sur le texte depuis, je pense, un an, mais vraiment, je luttais, je travaillais, en fait, c'est normal, mais il y avait un truc qui... La mayonnaise prenait pas, quoi. J'étais en train de faire la vaisselle à la fin des vacances, en mode, bon, demain, il faut rentrer à la maison, c'était un peu nul. Et d'un seul coup, les personnages sont apparus derrière moi, se sont mis à s'engueuler, et ça a été le nœud qui m'a permis de clore la pièce. Et d'un seul coup, elle existait, comme une espèce de... Ça a l'air complètement psychotique, ce que je raconte, mais... mais je sais pas, vous, est-ce que c'est une phrase, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est... Quel est le matériellement le déclencheur, quoi ?
Après, ce que tu me dis, ça me fait penser à l'eau et les rêves de Bachelard, notamment ce côté justement l'eau conductrice des imaginaires, donc ça me parle aussi. Après, c'est souvent c'est plutôt des questions ou des lectures des fois qui me donnent des idées ou des comme j'ai dit là tout à l'heure, des documentaires ou de voir ce qui se passe, trouver des lignes de force des fois qui se choquent. Et pour le coup, la marche, moi, ça m'aide pendant le travail, mais c'est pas pendant que je marche que je trouve l'idée. Moi, c'est plutôt quand je travaille, je sors, je marche et je reviens avec des nouvelles idées. C'est la fameuse marche des philosophes à Athènes, ils marchaient pour palabrer. Ça permettait de faire grandir les idées. C'est assez génial, ça, comme procédé.
Mais en tout cas, oui, moi c'est aussi, ça passe beaucoup par de la lecture. Enfin, beaucoup, beaucoup. Souvent, avant le travail, avant l'écriture, il y a de la recherche. Lire du théâtre, lire des romans, lire des BD, regarder des documentaires. Et puis la vie. Enfin, il y a aussi, c'est bête, mais j'ai l'impression que c'est important de le rappeler, quoi. Oui, marcher, faire sa vaisselle, discuter avec des gens, entendre des discussions... des choses qui nous font violence. Enfin, je crois qu'on écrit du théâtre parce qu'on vit, et je crois que c'est pas possible d'écrire une pièce seule dans sa chambre sans à un moment être avec l'autre. Enfin, je crois très fort que la puissance du théâtre, c'est l'altérité, c'est l'autre. Et sans ça, je crois qu'il n'y a pas théâtre. En tout cas, moi, ça m'intéresserait pas.
Pour rebondir sur l'altérité, ça m'intéresserait de vous entendre, parce que je vous voyais d'autres de l'inné, de la tête.
Oui, il a raison, il a raison.
Oui, il a tout à fait raison, il a tout à fait raison. J'agrée. Non, mais c'est ce côté de l'altérité, pour le coup, moi je l'aborde de mon côté avec la question du double intérieur, de... Enfin, c'est un truc, c'est ma psychose à moi, mais c'est est-ce que j'appartiens à mon nom, quelle est mon identité, quand je parle aussi de déjouer le réel, c'est de connaître ses frontières, sa porosité avec le rêve, et donc aussi la vérité, ce qui est faux, ce qui est vrai, et donc forcément l'identité, qui je suis. Et, ça sous-tend aussi un petit peu, et cette altérité, elle n'est pas tant... voilà, l'autre, vous, en face de moi, que moi-même, en fait, aussi. Et c'est comment je le mets en jeu avec le monde. Moi, c'est comme ça que je l'aborde, j'aborde pas mal.
J'ai l'impression qu'elle se capture dans la langue aussi, que aller débusquer cette altérité-là, c'est aussi dans comment on déplace son langage ou son point de vue dessus ou un style, enfin vraiment la matière littéraire du mot ou de la phrase ou du rythme, comment on la remet en jeu à chaque pièce, à chaque question, à chaque personnage, et que c'est par là que ça passe, parce que l'altérité c'est fascinant, c'est un moteur, mais c'est aussi intouchable, insaisissable, enfin, je sais pas, c'est peut-être aussi l'orthophonie qui me donne un peu ce regard-là, mais la table est en train d'essayer de s'enfuir. mais je crois que le seul petit fil que je puisse tirer pour avoir la sensation que j'y accède ou que je pose le bout des doigts dessus, c'est la langue, plus qu'une thématique ou un sujet.
Ouais, c'est la langue comme frontière mouvante et justement, finalement, très comme la mer, quoi, en fait, qui va et vient. Ouais.
Texte en cours est un... Merci. Texte en cours est un festival de textes, encore en cours d'écriture au moment du festival. Quelles sont pour vous les qualités et les fragilités de tel texte et pourquoi avez-vous désiré faire entendre le vôtre dans cette situation en cours ?
Moi, je sais qu'il y a des textes qui sont plus fluides parfois et d'autres qui résistent plus. Je crois que moi, celui-là résiste plus que les autres. Ça fait un an, moi, que je travaille dessus. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de versions. Et à un moment, c'était une réécriture du Magicien d'Oz. Enfin bon, ça a eu beaucoup, beaucoup de versions. Et donc, je crois que c'est justement sur ces textes-là qu'il faut aller à la rencontre de festivals comme ça aussi pour justement qu'il y ait un recul, il y ait des retours, qu'on puisse entendre, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et que, voilà, je crois que c'est ça le travail. C'est quand d'un coup, c'est laborieux et qu'on prend plus de risques, peut-être.
Émilie ?
Oui, je suis d'accord. Hein, c'est un texte qui résiste, Lady de la Mendiante, pour moi. Et que en termes d'altérité, là, je suis partie un peu loin de chez moi. Quoi. Je suis un peu loin dans la lisière. Et c'est pour ça que c'est dur de le terminer. C'est pour ça que l'altérité de l'équipe du festival et des comédiens, comédiennes qui mettent en voix, elle est aussi extrêmement précieuse. D'un seul coup, ça s'incarne. Et il y a je le disais tout à l'heure, il y a des voix et des corps. Et ça amène une matière qui est phénoménale pour reprendre le travail. Et puis, ouais, c'est ce que tu disais, la soumettre à un regard qui va l'accompagner sur un moment, c'est précieux.
Dans la dernière minute.
Oui, moi, j'ai rien de plus vraiment à ajouter. Oui, l'épreuve du réel pour, des fois, peut-être relancer ma pièce, là. Donc, Garépet, elle est un peu en stand-by là, depuis un petit moment. Je la laisse à son endroit et je pense que cette lecture va justement me permettre ou lui permettre de se relancer.
Merci à Charles Segard-Nambar-Claire, Hugo Titem Delaveau et Émilie Coustet. C'était leur fil du fer.
Merci.
Merci.
Merci.